bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur l'internet. Dieu vous bénisse. Vous allez bien ce matin?
Oui.
Gloire à Dieu. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. C'est toujours une grâce de Dieu. Il faut toujours se souvenir de ça. Eh bien, ce matin, nous allons faire une lecture dans le livre de Mormon, dans le livre de Néphi, au premier Néphi, chapitre 1, verset 20. Je commence à lire. Et lorsque les Juifs entendirent ces choses, ils furent en colère contre lui. Oui, tout comme ils l'avaient été contre les prophètes d'autrefois, qu'ils avaient chassés et lapidés et tués, et ils attentèrent aussi à sa vie afin de la lui ôter. Mais voici, moi, Néphi, je vais vous montrer que les tendres miséricordes du Seigneur sont sur tous ceux qu'il a choisis à cause de leur foi, pour les rendre puissants au point même d'avoir le pouvoir de délivrance. Amen. Vous croyez ça?
Oui.
Moi, je crois ça aussi. Dieu nous donne le pouvoir de délivrance. Notre Père nous a donné Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Père céleste est donc notre donateur suprême. La prédication de ce matin a pour titre « Une loi étrange ». Une loi étrange. Prions. Jésus, je te prie que les paroles que je vais apporter ce matin puissent bénir mes frères et sœurs et les aider à vivre encore mieux, sachant que tu reviens bientôt pour nous enlever. Nous savons ces choses et nous voulons, mon Dieu, être vraiment rétablis dans la sainte doctrine, dans ce que tu as rétabli sur cette terre en ces derniers temps, tout ce que tu as donné. Tu es vraiment le donateur suprême. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Oui, beaucoup de choses sont sorties de terre ces derniers temps. Les écrits, les manuscrits de la Mer Morte, nous avons eu les écrits de Nag Mahadi, on a eu le livre de Mormon. Beaucoup de choses sont sorties de la terre afin de donner encore un autre témoignage de Jésus-Christ. Ça, c'est magnifique. C'est pas que la Bible ne nous suffit pas. À nous, elle nous suffit parce que nous sommes nés de nouveau et nous la comprenons assez bien. C'est vrai que nous comprenons pas tout encore, mais suffisamment pour être sauvés.
Amen.
Suffisamment pour être guéris, pour être protégés, pour être guidés et toutes ces choses. Mais il y a des mystères de Dieu. Dieu a caché des choses et il les révèle à la fin. Et ceux qui veulent pas recevoir ce que Dieu révèle à la fin, c'est dommage pour eux. Parce que ça fait partie de cette huile que Dieu veut donner à ces vierges sages pour qu'elles puissent être éclairées pour aller à la rencontre de l'époux. Alors nous savons que l'époux vient bientôt. Nous ne donnons pas de date, mais nous savons que c'est pour bientôt. Je pense pas qu'on va traîner des années encore. Vraiment, je crois pas. Les signes sont là, et surtout le rétablissement de toutes choses. Israël, bien sûr, les tremblements de terre, bien sûr, les guerres, les pestes, toutes ces choses. Nous savons que c'est vrai. Mais nous avons un donateur suprême, et il est bon de prendre ce que Dieu nous donne. Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie pour nous, c'est-à-dire à notre place, sur la croix. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ est mort, c'est moi qui suis mort là-bas. Il est mort à ma place, il est mort à votre place. Et par ce sacrifice, il nous donne la vie éternelle. Il la donne à tous ceux qui croient en lui, mais aussi à tous ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Parce qu'il ne suffit pas de lever sa main dans une réunion, de se faire tremper dans l'eau. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom du Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus, au nom de... Non, il n'y a pas de formule, mais... Ça suffit pas. Après, il faut encore marcher. Si on a trouvé la porte, après, il y a un chemin derrière la porte. Il faut marcher sur ce chemin et aller jusqu'au bout, pas s'arrêter en route. Jésus, qui est Dieu dans la chair, est donc le donateur suprême qui s'est montré, qui a montré le Père. Il a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et il existe une loi étrange, mes frères et sœurs. C'est le titre donc de ma prédication, c'est que plus une personne s'éloigne du Seigneur, plus elle a tendance à considérer qu'elle a droit à ses dons. plus une personne s'éloigne de Jésus, plus elle considère les dons de Dieu comme un dû. Ne croyez jamais que vous méritez la grâce de Dieu et que ces bénédictions vous sont dues. Ne croyez jamais ça. Si vous pensez comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de malade dans votre vie spirituelle. Dieu ne vous doit rien. Il a tout donné, mais il vous doit rien. Cette loi étrange, elle se vérifie aussi entre les êtres humains. En ce moment, on approche des présidentielles, on va encore bien rigoler, et je lis et j'entends des revendications de toutes parts, des revendications. L'être humain est enclin à regarder autour de lui, à relever les inégalités, à se sentir lésé, à se sentir offensé par l'injustice qu'il perçoit. Et alors, c'est vrai qu'il y a des injustices qui sont courantes, voilà. Il y en a qui sont vraiment écœurantes. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont écœurantes. Mais quand on est loin de Dieu, même les petites iniquités, les petites injustices nous paraissent grandes et on en fait toute une histoire. Nous pensons que le président doit régler toutes les choses avec ses ministres, avec ses députés et tout. C'est toujours la faute du gouvernement, même s'il pleut. Hein? Il doit régler tout et tout de suite. Et qu'est-ce qu'il fait là-haut, le président? Hein? On ne le voit pas, sauf à la télé de temps en temps. On est loin de lui. Et lui, il est aussi loin de nous. Hein? Il faut aussi avouer quand même. Hein? Mais quand nous, nous sommes loin de Dieu, nous pensons aussi que Dieu devrait régler les choses comme ça. Et vite fait, en plus. Hein? Ça, c'est quand on est loin de Dieu. Dans la Bible, comme dans le livre de Mormon, comme dans tous les témoignages qu'on peut lire à gauche, à droite, de tous les serviteurs de Dieu qui nous ont précédés, et il y en a beaucoup, des témoignages de Jésus-Christ apportés par des hommes de Dieu merveilleux, eh bien, nous voyons cela se produire très souvent. Cette loi, par exemple, là, on parle de Néphi. Néphi avait le grand désir de connaître les mystères de Dieu. Néphi, c'était le fils de Léhi. Léhi avait reçu un message, c'était son papa, il avait reçu un message de Dieu, et Néphi, il avait un grand désir de connaître les mystères de Dieu. C'est pourquoi il a invoqué Dieu et son cœur, la Bible nous dit, son cœur a été adouci. Je vous prêchais là-dessus vendredi passé. Vous adoucissez votre cœur. Par contre, ses frères, qui s'appelaient Laman et Lémuel, c'était deux hommes qui étaient loin de Dieu. Néphi, lui, il a accepté de faire beaucoup de choses difficiles. Quand vous lisez son histoire, c'était pas rigolo. Et sans se plaindre. Mais Laman et Lémuel, ses frères, ils murmuraient presque tout le temps. Murmurer, ça veut dire quoi? Si vous regardez dans un bon dictionnaire, parce que vous avez des mauvais dictionnaires, murmurer, c'est pleurnicher comme un gamin. Murmurer. Et vous savez pourquoi ils pleurnichaient? Parce qu'ils ne connaissaient pas la manière que Dieu a d'agir. C'est tout. C'est que ça. Ils ne connaissaient pas la manière que Dieu a d'agir. Néphi, lui, il était proche de Dieu parce qu'il le voulait. Il le voulait, il faut le vouloir. Et cette proximité avec Dieu lui a permis de reconnaître et d'apprécier les miséricordes de Dieu et même les tendres miséricordes de Dieu. Pourtant, il en a bavé, hein, Néphi. Mais il savait reconnaître et apprécier les tendres miséricordes de Dieu. Et qu'est-ce qu'il arriva quand Laman et Lémuel ont vu que Néphi recevait des bénédictions? Eh bien, ils étaient furieux contre lui, en plus. Pourquoi est-ce qu'ils étaient furieux? Parce qu'ils ne comprenaient pas la manière d'agir de Dieu. Ils étaient loin de Dieu, ils se tenaient loin de Dieu. C'est eux qui se tenaient loin de Dieu. Comme Caïn, d'ailleurs. Vous pourriez me dire, mais pourquoi tu nous prends le livre de Mormon à la place de prendre la Bible? Il y a suffisamment de passages dans la Bible. Mais vous les connaissez tous, les passages dans la Bible. Alors c'est bien de lire un autre témoignage aussi d'autres personnes qui ont vécu. Mais Caïn, c'était la même chose. Caïn avait l'air religieux. quand vous, si vous étiez là, de vous promener dans la campagne, et puis que vous voyez Caïn en train d'offrir son sacrifice, ben, il avait l'air d'être près de Dieu. On n'offre pas un sacrifice à Dieu si on n'est pas, si on n'est pas près de Dieu. Il avait l'air. Mais ce moment-là, le sacrifice n'était pas le bon. Se tenant loin de Dieu, il ne savait pas ce qu'il convenait d'offrir à Dieu pour lui faire plaisir. Parce qu'il était loin de Dieu, il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas, ou il pensait que ce n'était pas vraiment très important, la façon de faire. C'était de toute façon ses meilleurs fruits, ses meilleurs légumes, ses meilleurs melons. Hein. Plaisante ici, parce que des melons, on en fait une cure, hein, dans le sud-ouest. L'amant et Lémuel, ils considéraient que Dieu leur devait la même chose qu'un Néphi. Comme Caïn, ben, ils considéraient que Dieu lui devait la même bénédiction qu'à son frère Abel. Et quand Dieu les bénissait, parce qu'il est arrivé quand même que Dieu bénisse l'amant et Lémuel, parce que quand même Dieu est bon, eh bien l'amant et Lémuel considéraient ça comme normal, comme un dû. C'est le boulot de Dieu, c'est de nous bénir. Et ils ont même été jusqu'à supposer que Dieu aurait pu quand même faire un effort et leur donner plus. Mais vous allez lire, c'est effarant, le cœur de l'homme. C'est effarant. Et quand leur frère Néphi était béni, eh bien, ils considéraient cela comme un tort commis par Dieu contre eux-mêmes. C'est la jalousie. Et bien, ça, c'est vraiment le cœur de l'homme. C'est vraiment le cœur de l'homme qui est loin de Dieu, qui est irrégénéré, qui comprend rien à rien, qui n'a aucune idée de comment Dieu agit. C'est dramatique. Lémuel et l'amant sont les parfaites personnes qui se considèrent comme des ayants droit. Vous savez, comme les deux idiots là, Chevalier et l'Aspalès. J'ai la carte prime plus plus premium. Alors c'est cher, mais j'y ai droit. J'y ai droit. Et ils sont donc, par leur propre faute, des ayants droit insatisfaits. Des ayants droit insatisfaits parce que c'est vrai qu'ils ont droit à la bénédiction de Dieu, mais comme ils font pas la volonté de Dieu, bah, parce que c'est cher de faire la volonté de Dieu. Ça coûte cher de faire la volonté de Dieu. Ça demande des sacrifices. Et ça... Alors, lisez l'histoire de Néphi et vous allez voir comment agit un homme de foi. Il faisait preuve de foi pour accomplir ce qui lui était demandé. C'est-à-dire que ses actes prouvaient sa foi. Ses actes. Au contraire, l'amant et Lémuel, étant endurcis de cœur, ils ne se tournaient pas vers le Seigneur comme ils auraient dû le faire. Comme Caïn, d'ailleurs, comme Caïn. Caïn, il semblait se tourner vers le Seigneur en offrant son sacrifice, comme beaucoup de chrétiens semblent se tourner vers le Seigneur avec leur jeûne à répétition, avec leur réunion de vendredite quotidienne, parce que je n'appelle plus ça des réunions de prière, c'est des réunions de vendredite quotidienne. Et c'est une apparence, c'est juste une apparence. Même, ils sont peut-être sincères, mais c'est pipeau. Aux yeux de Dieu, c'est pipeau. Il suffit simplement de connaître Dieu pour savoir que c'est pipeau. C'est juste une apparence. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Et ce qui en fait la force, c'est pas le Saint-Esprit. Beaucoup de gens pensent que c'est le Saint-Esprit qui fait la force de la piété. Non, ce qui fait la force de la piété, c'est l'obéissance de cœur. C'est la persévérance de cœur dans les engagements qu'on a pris lors de notre baptême. Voilà ce que Dieu apprécie. Un jour, Néphi a été ravi en esprit et il a vu beaucoup de choses que Dieu avait montrées déjà à son père, Léhi. Et Néphi avait ainsi la confirmation que ce que son père avait vu était vrai. C'est bon d'avoir la confirmation, n'est-ce pas, de ce que le serviteur de Dieu dit est vrai. Ouais. Là, par exemple, je vous parle du livre de Mormon. Tant que vous n'avez pas la confirmation de Dieu que c'est un livre qui est vrai, ben, c'est un livre comme un livre de Billy Graham, ou un livre d'Osborne, ou un livre de... un livre de quelqu'un qui aime Jésus, mais... et si c'était plus? Mais il faut avoir la conviction, il faut avoir la confirmation de la part de Dieu. Et Néphi, il a prié, il a cherché, il a été ravi en esprit, et Dieu lui a parlé. Mais ses frères, Laman et Lemuel, ils n'ont rien vu, eux. Ils ont simplement entendu leur père leur dire, matin, midi et soir, ils me cassent les pieds avec ces histoires. Puis en plus, c'est difficile à faire, blablabla. Alors, ils ne virent rien, et ils ne crurent rien de ce que Dieu avait révélé à Léhi, leur père, et de ce que Dieu avait confirmé à leur frère Néphi. Ils n'ont pas cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Et lui, eux, ils n'ont rien vu, parce qu'ils n'ont ils ont pas cherché à voir aussi. Hein. Néphi, à un moment donné, il était découragé par leur endurcissement. Et il nous est dit qu'il était épuisé à cause de ça. On va lire 1 Néphi 15, 6-11. Alors pour vous qui écoutez sur internet et qui n'êtes pas encore habitués à toutes ces lectures, à toutes ces histoires, ben c'est passionnant, vous allez pouvoir apprendre des choses. On a mis en ligne le livre de Mormon pour aller chercher, vous pouvez aller en commander aussi sur leur site, c'est pas difficile et c'est pas cher en plus, ils sont très très beaux et pas chers. Lisons donc, Néphi 15, 6, 11. Alors, où est-ce que c'est ce 6 ? Et il arriva qu'après avoir reçu de la force, je parlais à mes frères, désirant apprendre d'eux la cause de leur controverse. Parce que il y avait une controverse et il a désiré apprendre d'eux la cause de leur controverse. Et ils dirent, voici, nous ne pouvons pas comprendre les paroles que notre père a dites concernant les branches naturelles de l'olivier et aussi concernant les gentils. Rappelez-vous que ça se passait 600 ans avant Jésus-Christ, et puis Néphi avait eu la vision de l'olivier, vous savez, qui allait être, puis des branches qui allaient être greffées dessus, et il ne comprenait pas ça, c'est avec l'histoire des gentils, c'est-à-dire des non-juifs. Et Néphi dit, alors je leur dis, avez-vous interrogé le Seigneur? Et ils me dirent non, car le Seigneur ne nous révèle rien de la sorte. Alors écoutez, cette réponse est quand même un peu stupide. Non, nous ne lui avons rien demandé parce qu'il ne nous révèle rien de la sorte. Ils ont demandé ou ils n'ont pas demandé? Comment est-ce qu'ils peuvent dire Dieu ne nous révèle rien de la sorte? Ils n'ont pas demandé. Il faut d'abord demander, puis ensuite. Je dis non, oui j'ai demandé mais il ne m'a rien dit. Mais là ils disent non, on n'a pas invoqué le nom du Seigneur parce qu'il ne nous révèle rien de la sorte. C'est-à-dire, à notre avis c'est faux. C'est ça que ça veut dire en gros. Il faut être logique. Donc ils partent avec une mauvaise pensée déjà au départ, une intention mauvaise. Voilà, notre père nous raconte un bobard où il devient gaga et puis il a des idées fofolles, en devenant vieux il déraisonne. Hein? Ou alors, et puis notre frère, c'est le chouchou du père. C'est l'histoire de Joseph qui se répète. Enfin, c'est toujours les mêmes histoires. Hein? Alors voici, je leur dis, comment se fait-il que vous ne gardiez pas les commandements du Seigneur? Comment se fait-il que vous vouliez périr à cause de l'endurcissement de votre cœur? Mais s'ils répondent, ils ne vont pas dire « Nous voulons périr !» Mais n'empêche que c'est ça. « Ne vous souvenez-vous pas des choses que le Seigneur a dites? Si vous ne vous endurcissez pas le cœur, vous me demanderez avec foi, croyant que vous recevrez, étant diligent à garder mes commandements, assurément, ces choses vous seront révélées. » Voilà, c'est ça la chose. Si on demande, mais qu'on n'est pas diligent et qu'on ne demande pas, si on endurcit notre cœur et qu'on ne croit pas qu'on va recevoir, et si on n'est pas diligent à garder ses commandements, ben c'est sûr que Dieu ne va pas répondre. On va dire, ben Dieu m'a rien dit, c'est toi qui es dans l'erreur, Dieu m'a rien dit. C'est un peu léger. Ben c'est ce qui arrive dans la plupart des églises, quand on leur parle du rétablissement de toute chose. Ah oui, ah bon, mais Dieu nous a rien dit à ce sujet, nos pasteurs ne nous enseignent pas là-dessus, ah bon, vous croyez que c'est comme ça, mais Dieu nous a rien dit. Mais ils cherchent pas sincèrement. Ils sont pris par toutes sortes de choses, ils sont pris par leur vie. Imaginez un petit peu. C'est quand même terrible. Jésus revient bientôt pour enlever son Église. Il dit qu'il reviendra au temps du rétablissement de toutes choses. Il ne dit pas qu'il reviendra quand toutes choses seront rétablies. Il dit qu'il viendra au temps du rétablissement de toutes choses. Alors c'est ce moment, c'est la fin des fins en ce moment. Et il est en train de rétablir toute chose. Donc, la moindre des choses, ça serait de rentrer dans ce rétablissement, dans ce processus du rétablissement, pour montrer qu'on aime Jésus, qu'on aime son avènement, qu'on aime son retour. Supposons que tout à coup, quelqu'un me dise aujourd'hui, Sylvie Vartan va venir ici, et puis elle va manger avec toi, et vous allez pouvoir parler, etc. Eh bien, mes enfants, je ne vais pas aller me balader à Cahors pour aller voir les vitrines. Je vais rester là, non ? Et je vais faire tout ce qu'il faut. Je vais préparer la table, je vais mettre des fleurs, je vais faire tout joli. Je vais faire quelque chose, je me prépare à cette arrivée-là parce que j'aime beaucoup Sylvie Vartan, parce que je suis charnel. Mais avec Jésus, c'est encore bien plus grand. Quand on vous dit « Jésus revient bientôt », et puis « il ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses, pendant que les choses seront rétablies », et vous n'y croyez pas, et vous ne préparez rien pour ce rétablissement, et mais ça prouve que vous n'aimez pas son avènement, ça prouve que vous n'aimez pas son retour, ça prouve que vous en fichez. Vous avez vu tout à l'heure, c'était, je vous disais, là, il prouve par sa foi, il prouve sa foi en agissant. Et on prouve notre foi, on croit que Jésus revient en agissant comme il faut. Moi, j'ai pas besoin d'agir d'une façon particulière. Par exemple, un des signes, Israël est revenu dans son pays. Bon, ben, j'ai rien à faire pour ça. J'ai foi en ça, je crois en ça, mais qu'est-ce que je peux faire pour le retour ? Par exemple, mais par contre, les tremblements de terre. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est un signe, mais qu'est-ce que je peux faire, les tremblements de terre ? Bon, mais je peux envoyer de l'argent pour ceux qui sont victimes, mais bon, à part ça, qu'est-ce que je peux faire ? Y aller sur place et puis essayer d'aider à dégager les blocs de béton et tout. Mais qu'est-ce que je peux faire contre les pestes ? Qu'est-ce que je peux faire ? Par contre, avec le rétablissement de toutes choses, il y a beaucoup de choses à faire. Eh ben, c'est extraordinaire. Dieu nous donne une possibilité d'agir, de prouver notre foi qu'il revient bientôt en faisant quelque chose. Quoi ? En rétablissant l'Église, en la guérissant, en lui apportant ce dont elle a besoin, ce qui a été oublié dans les temps passés. Et c'est merveilleux. C'est magnifique de pouvoir faire quelque chose, non pas pour être enlevé, mais parce qu'on va être enlevé. Vous saisissez bien la nuance. Alors, ils n'avaient pas de révélation. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient, ils avaient endurci leur cœur, ces deux gaillards-là. Ils ne demandaient pas avec foi, et c'est toujours la même histoire. Demander avec foi, ça veut dire demander en agissant, avec action de grâce. Action. Si vous lisez ce que Dieu dit à Caïn, vous verrez que c'est la même chose dans Genèse 4-6. Pourquoi es-tu irrité ? C'est Dieu qui lui parle. Dieu sait très bien pourquoi il est irrité. Hein. Mais il dit pourquoi ? Pour le faire réfléchir. Pourquoi t'es irrité ? Et pourquoi est-ce que tu abordes un air sombre, une tronche pareille ? Pourquoi tu fais la tronche ? Pourquoi ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent sur toi. Mais toi, domine sur lui. Il lui dit pas, si tu agis mal, le péché va venir se coucher à ta porte. Non, il est déjà couché à ta porte. Et si tu agis mal, ses désirs qui se portent sur toi, ils vont dominer. Mais par contre, toi, domine sur lui, ne laisse pas. Il lui donne une possibilité. Est-ce que Caïn a écouté ? Pourtant, c'est Dieu qui lui parle. Eh ben non, n'écoute pas. Alors comment voulez-vous ? Quelle prétention aurais-je de dire je comprends pas pourquoi ils m'écoutent pas les gens, pourquoi ils m'écoutent pas? Ben, s'ils écoutent pas Dieu, comment voulez-vous qu'ils écoutent un simple pecno comme moi? C'est impensable. En plus charnel comme moi. il a endurci son cœur, ce Caïn. Alors, il y a des non-croyants qui sont comme Caïn, Lémuel et Laman, ils disent Dieu nous révèle rien du tout de cette sorte-là, on n'a jamais entendu parler de ça, Dieu nous a jamais dit ça, d'abord est-ce qu'il y a un Dieu et tout, et ils font pas d'efforts pour chercher, pour demander, rien du tout. Ils sont l'équivalent des sceptiques railleurs. Ah, il est où, hein? Il est où votre retour de Jésus? Ah, depuis le temps, Jésus dit je reviens bientôt. Ah bah quelle belle prophétie. je reviens bientôt, ça fait 2000 ans. Ben alors, mes pauvres enfants, et vous y croyez encore? Par exemple, vous, là, on vous dit, le train vient bientôt. Alors, vous êtes à la gare, vous attendez 2000 ans. Vous attendez 2000 ans? Au bout d'un moment, on s'endort, non? On va dans la salle d'attente, on se couche, puis on s'endort. Ben voilà, c'est ce qui arrive aux vierges folles. Mais les vierges sages, Jésus leur a dit, attention, il y a des signes quand même. Hein. Il y a des signes, quand le train va arriver, il va y avoir ça et ça, juste avant et tout. Alors, celui qui croit aux signes, eh ben, il regarde, et puis il voit les signes, puis il se dit, oh là là, c'est le moment, il faut que je me tienne sur lequel le train va arriver. Vous suivez? Parce qu'il aime ça, il aime ce train qui arrive. On aime Jésus qui revient. Mais les autres, non. Alors voilà, bon, c'est comme ça. Alors, qui est des non-croyants qui sont des sceptiques railleurs? Passe encore. Mais maintenant, le plus grave, c'est qu'il y a des chrétiens qui sont comme ça, qui croient plus dans l'enlèvement, qui croient plus dans ces choses, qui s'en fichent complètement, ou alors, en tout cas, ils vivent comme si ça n'existait pas. Ils murmurent, ils pleurnichent, et puis ils deviennent querelleurs. Ils pensent que la vie est injuste. La vie est pas juste, du Calimero. C'est comme ça qu'il s'appelait le petit poussin, vous savez, qui a la coquille sur la tête. C'est pas juste. Des fois, j'entends des chrétiens qui disent ça. La vie est dure, la vie est pas juste. Mais c'est un blasphème. Quand on pense que Jésus lui-même a dit « Je suis la vie » et eux, ils osent dire « La vie est dure ». Ils sont en train de dire « Jésus est dur ». Quand ils disent « Jésus, la vie est injuste », ils disent « Jésus est injuste ». C'est pas juste qu'il m'arrive ça. Ah oui, mais attends. Est-ce que c'était juste qu'il m'arrive un cancer? Mais pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, évidemment, je me suis vu Vartan. Ouais, c'est peut-être à cause de ça qu'il m'a envoyé un cancer. Ouais. On peut toujours se trouver des péchés, des raisons, mais voilà. Vous voyez, ils sont loin de Dieu, bien qu'ayant une apparence de piété. Mes frères et sœurs, la vie a-t-elle été injuste envers Abel, innocent et assassiné? J'aimerais bien que vous y réfléchissiez. Est-ce que la vie était injuste avec Abel, qui était innocent et qui était assassiné? Jésus lui-même, innocent, a souffert. Est-ce que c'était injuste? Vous voyez, plus on s'approche de Jésus avec notre pensée bien disposée, avec des intentions de cœur qui sont bonnes, plus nous apprécions ses souffrances d'innocents. Et plus nous sommes reconnaissants pour sa grâce et pour son pardon. Et plus nous avons le désir d'être humbles, de nous repentir et de devenir comme lui, c'est-à-dire aussi martyr. Témoin veut dire être martyr. Souffrir d'une façon injuste. Alors vous voyez, la distance qu'il y a entre nous et Dieu, c'est quelque chose d'important. Je vous ai montré que si on est loin de Dieu, on tombe dans cette loi qui, des ayants droit. Mais si la distance est importante, il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est la direction qu'on prend. Dieu se réjouit du pécheur repentant qui essaye de se rapprocher de lui. Et il y a les pharisiens, les religieux, les propres justes, qui ne se rendent même pas compte à quel point ils ont besoin de se repentir. Et c'est terrible. Quelle direction prenez-vous, si vous êtes loin de Dieu, ou même si vous êtes près de Dieu, vous pouvez vous approcher encore. Quelle direction vous prenez? Mes frères et sœurs, Dieu le Père nous a donné Jésus-Christ sous la forme d'un enfant couché dans une crèche. Il faut qu'on y pense. Quand on y pense, on voit à quel point Dieu est gentil et aimant. Il n'est pas injuste. Et au lieu de penser que nous avons droit à ses bénédictions, que nous avons droit à sa grâce, on va plutôt commencer à concevoir l'idée de ne plus lui causer de peine en nous tenant éloignés de lui. C'est tout à fait une autre chose. Alors, quelle que soit ta distance ou quelle que soit ta direction par rapport à Dieu, tu peux choisir de te tourner vers lui et je te le promets, il t'aidera. Il t'aidera, il t'élèvera. Jésus dit qu'il était élevé sur la croix afin de pouvoir attirer tous les hommes à lui. Il veut t'attirer là où il n'est pas, à la croix. Tu dois porter ta croix toi aussi. Tu dois souffrir toi aussi. Tu dois passer par certaines choses difficiles, des souffrances. Mais il veut t'attirer là où il est, afin que là où il est, toi tu y sois aussi. Et pour t'approcher de Dieu, tu dois accroître ta foi en lui. Tu dois contracter des alliances avec lui et les respecter, même si ça te fait souffrir. Tu dois avoir le Saint-Esprit avec toi. Et ça, ça dépend de toi, parce que tu peux l'attrister, le Saint-Esprit. Tu dois agir avec foi en réagissant, avec amour aux directives spirituelles que tu reçois dans l'Église. C'est Jésus qui bâtit son Église. Tu me diras, mais moi je ne peux plus aller dans les églises parce que je suis déçu, je suis dégoûté et tout. Ben tu as tort, je suis désolé, tu as tort. Tu dois aller dans une église. Tu n'aimes pas ça, bon ben voilà, c'est une souffrance pour toi, mais tu dois y aller. Alors, sortez du milieu d'elle. Michel, tu nous dis sortez du milieu d'elle. Oui, sortez du milieu d'elle, c'est vrai. Alors comment vivre l'église? Comment aller à l'église? Mais réunis-toi avec quelques frères et sœurs que tu aimes et faites comme nous sommes en train de faire. Rétablissez cette vision de la vie communautaire là où vous êtes, dans votre bled, dans votre quartier. Faites une église de maison, je sais pas. Mais en tout cas, ne restez pas tout seul. Quand vous êtes tout seul, vous pouvez pas prendre la Sainte-Seine. Communier avec qui, là, quand vous prenez la Sainte-Seine tout seul? Avec Dieu? Oui, mais la Sainte-Seine, c'est une communion horizontale et verticale. Parce que si tu aimes pas ton frère comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu vois pas? Tu peux pas communier qu'avec Dieu qui est au ciel, tu dois aussi communier avec Dieu qui est dans ton frère, dans ta sœur, tu peux pas communier tout seul. Tu as besoin de l'Église. Il y a une chose que les chrétiens semblent oublier, c'est que Jésus n'a pas dit que nous devons construire sur le roc, parce que au cas où le vent se mettrait à souffler, ou au cas où la pluie tomberait, eh bien, si tu es sur le roc, ben, tu vas tenir le coup. Non, il n'a pas dit ça, il a dit, tu dois construire sur le roc, parce que lorsque le vent va souffler, c'est inévitable, ça va souffler. Et construire sur le roc, c'est construire sur la révélation de Jésus-Christ, et Jésus-Christ, c'est celui qui construit son Église. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça signifie bien que les difficultés n'épargnent personne. Et lorsque nous prenons dignement la Sainte-Seine, eh bien, nous nous souvenons du Seigneur. Nous nous souvenons du Seigneur. Comme les disciples d'Emmaüs, ils avaient Jésus avec eux, ils ont marché avec lui, ils étaient à table avec lui, ils l'avaient en face d'eux, mais ils l'ont reconnu que lorsqu'il a rompu le pain. Il y a quelque chose qui se passe dans la Sainte-Seine. Quand on la prend dignement. La Sainte-Seine nous aide à réellement nous souvenir du Sauveur. Alors tu dis l'Église, ceci, l'Église, cela, je sais que c'est terrible. Mais si tu es au milieu de frères et sœurs, même avec des problèmes, si tu te souviens du Seigneur, mais tu leur pardonnes à ces frères et sœurs. Et c'est ce que Jésus veut. La Sainte-Seine vous rappelle aussi ces souffrances d'innocents. Et si tu es innocent et que tu es persécuté, que tu es embêté dans l'Église, eh ben tu te souviens que voilà, ben c'est, Jésus a passé par là aussi. Lui, il a été rejeté, lui aussi, il a été mis dehors. Et puis la Sainte-Seine vous rappelle que si la vie était vraiment juste, ben ni vous ni moi, on ne ressuscitera jamais. Si la vie était juste, si Jésus était juste, seulement juste, eh bien, aucune chance d'être sauvé, ni vous ni moi. Heureusement que la vie n'est pas que juste. On ne pourrait pas se tenir sans tâche devant le Père, on serait plein de tâches. Alors finalement, je suis reconnaissant à Dieu que parfois la vie semble, entre guillemets, injuste. En fait, elle ne l'est pas. Mais elle peut sembler injuste, comme Caïn peut sembler religieux, comme l'amant, Lémuel peuvent sembler religieux. Nous avons la promesse que Dieu effacera toutes larmes de nos yeux. Nous avons la promesse que la mort ne sera plus, qu'il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, car les premières choses auront disparu. Apocalypse 21:4. Les premières choses, c'est les choses qu'on est en train de vivre ici. Ces choses-là auront disparu, sera disparu. C'est fini les souffrances, c'est fini les douleurs, c'est fini les handicaps, c'est fini la pauvreté, c'est fini toutes ces choses-là, les deuils, c'est fini. Avec Jésus, ce sera terminé. Alors, où que vous soyez, rapprochez-vous de Dieu. Prenez la Sainte Cène avec vos frères et sœurs dans l'Église. Comme je vous ai dit, là où deux ou trois sont assemblés, mon nom, c'est déjà l'Église. Bon, c'est pas l'Église telle que vraiment elle devrait être, parce que dans l'Église, il doit y avoir les ministères, etc. Mais c'est déjà un commencement. C'est déjà un commencement. Nous, on a commencé comme ça avec Michou. On a commencé avec un autre couple. Et puis ensuite, il y a d'autres gens qui sont venus, et puis d'autres gens, etc., etc. Réaliser, en faisant cela, la proximité avec votre Sauveur, qui est le bâtisseur de son Église. Moi, je me sens, quand je suis là, avec vous, en train de louer Dieu pendant ce culte, avec le pain et le vin devant nous, là, que nous allons prendre tout à l'heure, je réalise que je suis en communion pas seulement avec vous, mais aussi avec tous ceux qui prennent la Sainte Cène ce dimanche matin, qui se sont levés, qui se sont fait tout beau pour aller à l'église. Alors on dit, l'apparence, c'est vrai qu'il y en a qui vont à l'église juste pour montrer leur beau chapeau, leur beau costume, mais bon, c'est aussi pour honorer Dieu que on s'habille correctement, on va pas en string à l'église quand même. Hein? Bon, voilà. Bon, alors maintenant la question de mode, voilà, si vous voulez y aller habillé en gothique, vous pouvez. Donc c'est décent. Mais disons, voilà, on s'est préparé pour aller à l'église. Maintenant, il y a des millions de personnes qui, ce matin, là, sont à l'église et vont prendre le pain, le vin. On est en communion avec eux. Même s'ils ne croient pas tout à fait la même chose que nous, Dieu s'en moque de tout ça. S'il voulait qu'ils croient la même chose que nous, ben, il leur aurait révélé. Et si c'est parce qu'ils ne cherchent pas, bon, ben, Dieu leur fera comprendre qu'il faut qu'ils cherchent. Comment? J'en sais rien, mais ça ne me regarde pas. Moi, ce que je fais, c'est de faire connaître le plus possible, ne serait-ce que par mes écrits ou par Internet, qu'il faut chercher Dieu, s'approcher de lui, prendre la bonne direction. C'est ce que je fais encore ce matin. Mais je ne peux pas être derrière tous les chrétiens et leur courir partout derrière pour leur dire, est-ce que vous êtes vraiment des gens qui cherchez Dieu sincèrement? Il faut que vous réalisiez la proximité avec votre Sauveur qui est le bâtisseur de l'Église. Il s'est fait connaître aux disciples d'autrefois en rompant le pain. Ben, il va faire la même chose avec vous. Je vous promets que si vous le faites, vous vous sentirez plus proche de Dieu. Et puis ces tendances à pleurnicher, c'est puéril, c'est tendance à ces attitudes d'ayant droit insatisfait. On est toujours insatisfait quand on pense qu'on a droit. Hein? Et le cynisme, ben tout ça, ça disparaîtra. Ces sentiments seront remplacés par la gratitude et un amour pour le Père qui nous a fait don de son Fils, le don suprême. Et puis alors, vous allez vous rendre compte, comme les disciples d'Emmaüs, ben, que Jésus a marché avec vous depuis toujours. Il ne s'était pas rendu compte. Il disait pourtant notre cœur brûlait en nous pendant qu'il nous parlait, mais voilà. Vous voyez comment on peut être. C'est terrible. Donc, écoutez ce que je vous dis ce matin et faites-le. Je vous le dis et je rends témoignage que c'est la vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. À bientôt, mes frères et sœurs. À bientôt. Au revoir.